1079.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 14 février. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, 20 ans que le patinage français l'attendait, la médaille d'or en danse au JO pour Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, seul titre qui manquait encore au couple français. Nous sommes en direct de Pékin dès le début du journal, après les autres titres Anaïs.
Le chancelier Olaf Scholz à Kiev, aujourd'hui l'Ukraine qui entraîne des civils, reportage dans ce journal. 6 ans après l'assassinat du père Hamel, revendiqué par le groupe État islamique, l'ouverture aujourd'hui du procès. Valérie Pécresse a-t-elle convaincu son camp hier après son grand meeting? Pas si sûr. Et puis Saint-Valentin aujourd'hui, attention à bien choisir ses fleurs et on vous explique pourquoi à la fin du journal.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa Salamé.
Oui, on le croyait soutien fervent et conseiller au culte d'Emmanuel Macron. Il a surpris en décidant finalement de s'engager pour Valérie Pécresse. Comment a-t-il trouvé son meeting au Zénith hier? Pense-t-il vraiment que la candidate LR a un espace? Alain Minc sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec donc le comédien Vincent Lindon. Il joue dans Un autre monde de Stéphane Brisé. Le film sera en salle mercredi. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Guillaume Cizeron en rouge et noir, des paillettes pour Gabriela Papadakis et Gabriel Fauré pour la musique, l'apothéose à Pékin, médaille d'or tant attendue pour le patinage artistique français. Le couple avait fait l'impasse sur beaucoup de compétitions pour cet objectif des JO. Paris réussi, Jérôme Val.
Exactement, nous avons vécu un moment de grâce hein, sur cette glace de Pékin et sur les notes de l'élégie de Gabriel Fauré, un couple virtuose, aérien, pour une prestation sans fausse note. Et comme avant-hier, lors de leur programme rythmique, eh bien les deux Français terminent très largement en tête. Émotion indescriptible pour Guillaume Cizeron au moment où la note finale est tombée.
On n'a jamais été autant stressé de toute notre vie. En même temps, on a vécu, je pense, un des plus beaux moments de notre carrière. Et c'est vrai que c'est un immense soulagement de finir sur un programme où on sait qu'on n'a fait aucune erreur, où chaque seconde était presque parfaite.
Avec cette médaille d'or après laquelle il courait depuis 4 ans, eh bien le couple a tout gagné à 26 et 27 ans. Quadruple champion du monde, quintuple champion d'Europe. Mais ce titre acquis ici en Chine est incomparable pour Gabriela Papadakis.
Je pense que ça surpasse tous les autres. Les jeux, évidemment, que ça a beaucoup de poids et symboliquement c'est très fort. Le fait que ce soit tous les 4 ans, c'est aussi extrêmement spécial parce que les 4 dernières années, il y avait un peu que cette compétition-là qui existait vraiment pour nous. Donc oui, c'est énorme.
Vous l'avez rappelé, hein, ce titre est le premier pour le patinage français depuis 20 ans, depuis Marina Nissina et Gwendal Pesra en 2002. Et d'ailleurs, la présidente de la Fédération française des sports de glace, l'ancienne patineuse Nathalie Péchala, que l'on a croisée tout à l'heure, était tout simplement en larmes.
Merci Jérôme Vallant. En direct de Pékin, les Russes décrochent l'argent, les Américains le bronze. La médaille sera remise à la mi-journée, la 11e donc pour la France. De l'autre côté de la médaille, les Jeux Olympiques, c'est aussi un pays sous cloche où la vie s'arrête pour les populations voisines des sites olympiques dans les zones de montagne, où s'est rendu notre correspondant Sébastien Berriot, à une centaine de kilomètres de Pékin. La bulle sanitaire et les mesures de sécurité drastiques bouleversent la vie de milliers de Chinois.
À l'est du district de Yanqing, en pleine montagne, une route toute neuve mène à la bulle sanitaire des Jeux Olympiques. Sur le bord de la chaussée, les villageois voient passer depuis leur maison les convois officiels, mais pas question pour eux d'emprunter la route pour leur quotidien. Les autorités ont fixé des règles très strictes.
Les habitants doivent bien attacher leur bétail, c'est très surveillé. Des gardiens surveillent notre rue. On craint aussi que nos chiens courent partout et gênent les voitures officielles.
Quelques kilomètres plus loin, un barrage de police indique l'entrée de la bulle sanitaire, le territoire de vie des villageois a comme été coupé en deux avec un effet immédiat pour l'économie locale, nous raconte un autre habitant.
Personne ne peut aller au-delà de ce grillage. Pendant les JO, les gens ne peuvent plus travailler dans les chantiers. Les ouvriers ne pourront pas reprendre tant que les Jeux Olympiques ne seront pas terminés.
Le sujet est très sensible. Ici, personne n'ose critiquer les Jeux Olympiques, mais une commerçante nous explique qu'avec les JO, elle ne peut plus travailler comme avant.
Depuis le début de la préparation des Jeux Olympiques, tout est inspecté. On vient contrôler l'environnement, l'hygiène, la sécurité. Il y a d'abord une alerte, puis ils nous infligent des amendes. On ne peut même plus laisser des choses devant notre porte.
Les villageois vont encore devoir patienter. Après les Jeux Olympiques, il y aura les Jeux Paralympiques. La bulle sanitaire sera effective jusqu'à la mi-mars. À Yanqing, Sébastien Berriot, France Inter.
Et puis autre voix dissonante sur les JO, celle du leader étudiant hongkongais Nathan Lowe, exilé à Londres. C'est un article à lire sur franceinter.fr.
Il est 7h05, l'Ukraine ne veut pas paniquer, Anaïs, mais arme et entraîne des dizaines de milliers de civils.
Pour faire face aux 130 000 soldats russes en manœuvre de l'autre côté de ses frontières, Kiev veut recruter 100 000 volontaires pour rejoindre les brigades de défense territoriale. Des civils de tous horizons, prêts à se battre aux côtés des soldats. Benjamin Illy a pu assister à un de leurs entraînements dans la banlieue de Kiev.
Ah oui, d'accord, on arrive sur une sorte de site industriel désaffecté.
Elle s'appelle Rumiya, elle a 59 ans.
Il y a cette dame, en doudoune, avec son fusil en bois dans les mains. Fonctionnaire ?
Fonctionnaire. Il y a 7 ans qu'il y a la guerre. Je suis de la région de Donetsk. Et je trouve que c'est le moment de prendre les armes pour défendre la patrie, la ville et mes enfants.
Vous êtes prête à donner votre vie ? La réponse est oui. Là, ils viennent de simuler un jet de grenade. Vous parlez français ?
Je suis ukrainien quand même. Vadim.
Vadim, vous avez quel âge ?
60.
C'est quoi votre métier ?
Éditeur.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Mais il faut s'entraîner. Parce que Dieu sait, avoir un Moscou comme un voisin, toujours dangereux.
C'est dangereux.
C'est un peu inquiétant. D'accord. Ne nous dérange pas et tout sera bien. Ne nous touche pas.
Ça, c'est une parole de patriote.
Oui, oui. La gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros.
Reportage de Benjamin Illy avec les moyens techniques de Laurent Macchietti sur le terrain diplomatique place à l'Allemagne. Olaf Scholz attendu aujourd'hui à Kiev et demain à Moscou. Ils ont passé la nuit dans leur voiture ou leur fourgonnette et décident ce matin de reprendre la route direction Bruxelles ou Strasbourg. Les centaines de participants au convoi anti-pass vaccinal, 1300 véhicules pour l'instant stationnés sur un grand parking au nord de l'île et interdits d'entrer à Bruxelles alors qu'ils veulent interpeller les instances européennes. Pauline Joss.
L'itinéraire n'est pas clair. Si certains manifestants visent toujours la capitale belge, d'autres parlent de Strasbourg ou même de retourner manifester à Paris. Pour Pascal, c'est l'aventure.
Je suis parti, j'ai pris mon fourgon, deux couvertures, deux bouteilles d'eau et je suis parti. À l'aventure complètement. Ouais.
Un peu plus loin dans le cortège, un groupe d'amis voyagent ensemble dans la même voiture. À bord, Madeleine est confiante.
On roule sur Bruxelles, on va passer la frontière indépendamment par les petites départementales puisqu'on risque d'être attendu de façon plus ou moins désagréable.
Lui se fait appeler JC du rond-point de Bandol. Pour ce gilet jaune de la première heure, pas question de faire demi-tour.
On veut une justice sociale, fiscale, la fin des privilèges et surtout enlever toutes ces restrictions politiques. C'est ça qu'on veut. On est des milliers, des dizaines de milliers à être montés du sud, de la Corse, de partout où on vient du Var. On partira pas, on restera jusqu'à temps que ce gouvernement de mafieux baisse les bras et qu'il aime son peuple. Il aime pas son peuple, il nous a insultés. Rien que pour ça, moi j'ai 5 petits-enfants, je ne lâcherai jamais.
À Bruxelles, les rassemblements ont été interdits par les autorités. À Paris, les forces de l'ordre sont encore mobilisées pour empêcher tout blocage aujourd'hui.
Et au Canada, le fameux pont Ambassador vient d'être rouvert après intervention de la police. Il était bloqué depuis une semaine.
Il est 7h09, l'attaque terroriste avait été montée en quelques jours sur Internet.
L'assassinat du père Jacques Hamel avait bouleversé le pays, égorgé dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016. Les deux djihadistes de 19 ans avaient été abattus. Ce matin, c'est donc le procès de trois membres de l'entourage qui s'ouvre à Paris et un grand absent, l'instigateur présumé mort en Syrie, précision à 8h. À Grenoble, dernière semaine d'audience du procès de Nordal Lelandais. Attendu, les psychiatres et les psychologues, mais les aveux vendredi soir de l'accusé pourraient bousculer l'audience, Mathilde Vinceneux.
C'est dans les toutes dernières minutes de son interrogatoire quand son avocat, maître Alain Jakubowicz, se tourne vers le box que Nordal Lelandais lâche. Oui, j'ai volontairement enlevé Maëlys. Oui, j'ai volontairement tué Maëlys. Il s'arrête là, son avocat aussi. Nordal Lelandais ne dit pas quelles étaient ses intentions ce soir-là. Il ne dit pas s'il a abusé de la petite fille, alors qu'il a reconnu des tendances pédophiles et des agressions sexuelles sur ses petites cousines. Les questions que se pose la famille de Maëlys restent sans réponse. Pour les parties civiles, ses aveux n'en sont pas, mais il y a quand même cette bascule qui interroge. Jusqu'ici, l'accusé était resté figé sur sa version des faits, celle d'un accident, d'une panique. Nordal Lelandais va-t-il maintenant livrer un autre récit de cette nuit-là ? La cour va-t-elle de nouveau l'interroger ? Elle doit entendre désormais les psychologues et les psychiatres pour évaluer sa dangerosité et sa personnalité clivée selon eux.
Mathilde Vinceneux, elle devait se relancer après les défections de la semaine dernière. Valérie Pécresse en meeting hier au Zénith de Paris. La candidate Les Républicains a réuni beaucoup de monde, mais pas forcément convaincu son propre camp, Anne Souhaitement.
Tout commençait pourtant bien. 7500 militants avides d'entendre la candidate.
C'est le moment de montrer qu'on a une grande candidate.
Et les mousquetaires, dont Xavier Bertrand qui chauffe le public.
La droite courageuse, elle est dans cette salle avec Valérie Pécresse, elle n'est nulle part ailleurs.
C'est ensuite à Valérie Pécresse d'entrer en scène, mais dès les premiers mots...
Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde.
Les visages se tendent.
Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement.
Elle a beau donner des gages à sa droite, on s'échange des SMS dans les premiers rangs. Manque de souffle, ton robotique, loin du Sarkozy qui finissait ses meetings la chemise trempée. Tacle un élu sceptique, même lorsqu'arrive le moment de fendre l'armure.
Je suis née un 14 juillet, ce jour de fête nationale où la France se rassemble et célèbre en même temps la prise de la Bastille et la fête de la Fédération.
Si au micro certains saluent un bon meeting,
très bien réussi, ou elle a fendu l'armure et puis elle a parlé d'elle.
En coulisses, les langues se délient. Où est l'animal politique pour combattre Macron, Le Pen et Zemmour ? C'était le Titanic, lâche un élu, inquiet par la perspective de nouvelles défections.
Et puis, autre écho de campagne en déplacement en Martinique, Anne Hidalgo a plaidé pour un tribunal international pour sanctionner les crimes d'écocide. Allez, jour J pour les fleuristes en cette Saint-Valentin. Ils réalisent un quart de leur chiffre d'affaires annuel. Mais avec près de 9 fleurs sur 10 importées, le bouquet n'est pas toujours vertueux pour l'environnement. Alors, acheter des fleurs françaises devient tendance, Philippe Père.
Devant l'atelier d'Aurore, fleuriste indépendant dans l'ouest parisien, Odile, 67 ans, est venue s'acheter quelques fleurs. Son premier critère, c'est la provenance.
Si j'ai le choix entre plusieurs bouquets qui me plaisent et qu'il y en a qui viennent de France, je prendrai celui qui vient de France. Je vais vraiment poser la question à chaque fois.
Odile est loin d'être la seule à s'interroger. Aurore Boussac, la fleuriste, constate l'intérêt croissant de sa clientèle pour la provenance de ses produits.
Les gens, surtout la jeune génération, demandent de plus en plus d'où ça vient. Et les fleuristes aussi, enfin, on est d'une génération comparée à ceux qui nous ont formés où on accorde plus d'importance à ça. Il y a plein de choses qui se mettent en place pour que ça aille dans le bon sens.
Pour contrer une offre provenant dans l'immense majorité de l'étranger, des entreprises émergent sur le marché des fleurs françaises, comme Fleurs d'ici, lancée il y a tout juste 5 ans. Hortense Aran en est la fondatrice.
Depuis que nous, on est acteurs sur ce marché-là, on voit une courbe qui ne cesse de croître et de façon exponentielle des consommateurs qui souhaitent et achètent des fleurs françaises et de saison, parce qu'en plus, les fleurs françaises et de saison, ça n'est pas plus cher. Parce qu'en fait, on réduit le nombre d'intermédiaires qu'il y a entre le producteur et le consommateur, et donc il n'y a pas de question à se poser.
Mais des habitudes à changer, car consommer des fleurs locales, c'est accepter de faire une croix pour la Saint-Valentin, par exemple, sur le bouquet de roses rouges, des fleurs qui, en France, ne poussent qu'entre le printemps et l'automne.
Mais on peut trouver en ce moment renoncule ou anémone.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le zoom sur la filière nucléaire en France. Le compte à rebours est engagé à Dieppe.